La première.
Oui.
Oui, oui.
Par où dire ?
Parce que disons.
Dis-moi. Par où dire ?
La Mallette Verte, c'est une enquête documentaire de Perrine Sokal autour des traces laissées par son arrière-grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'épilogue et les deux autres épisodes sont disponibles sur Ovio.
Bonjour. Je veux dire, Guten Tag. Herr Müller ?
Guten Tag, Fräulein. Je fais l'inventaire, voyez-vous.
Oh, je m'excuse de vous déranger. Mais je souhaiterais vous montrer un portrait, si vous le permettez.
Un portrait ?
Oui, celui d'une personne que je cherche. Une jeune fille qui me ressemblait apparemment beaucoup.
Je suis plutôt occupé. Enfin, bon, montrez-moi.
Vous voyez, il y a le nom de votre boutique dessus.
Oui, l'étiquette vient effectivement d'ici. Mais elle est très ancienne.
C'est le seul indice que j'ai pour découvrir ce qu'est devenue cette fille.
Je vois.
À mon avis... Le propriétaire de ce tableau a dû être client de la boutique. Avant que le tableau ne soit volé par l'ombre brune durant la Seconde Guerre mondiale.
C'est tout à fait possible. La boutique vendait des fournitures d'art à une époque. Comme vous pouvez le constater, nous ne proposons plus ces articles aujourd'hui. Vous permettez que je regarde ?
Bien volontiers.
Ce jeu vidéo a été créé par mon oncle, Benoît, petit-fils d'Émile, fils de mon grand-père Gérard. Benoît Sokal était dessinateur et auteur de jeux vidéo. C'est lui qui a découvert la Mallette Verte après la mort de mon grand-père. Et quand il l'a ouverte, l'histoire de notre famille a surgi de l'oubli, un peu comme un génie sort de sa lampe. L'aura de mystère autour de notre passé familial et de nos origines avait rendu cette histoire d'autant plus intrigante.
Moi, c'est mon métier de raconter des histoires, donc je cherche toujours des thèmes, des sujets, machin, et là, je suis tombé sur quelque chose de formidable. Et donc, je me suis intéressé à Vienne, je me suis intéressé à son architecture, je me suis intéressé à des tas de trucs comme ça.
Cet enregistrement date d'avril 2021. Je savais que Benoît était malade, il n'allait pas bien, et j'ai ressenti cette urgence de capturer tout ce qu'il savait sur Émile, pour ne pas laisser cette histoire s'échapper une autre fois. Alors j'ai pris un micro bon marché, j'ai fait des réglages approximatifs, et j'ai commencé le tout premier enregistrement de ce podcast.
J'ai découvert que grand-père est né dans un monde disparu. Un monde presque parfait, d'ailleurs. C'est le monde autrichien de l'entre-deux-guerres. Donc là, je suis en train de faire un jeu vidéo où tout le monde est dans une espèce de ville autrichienne fantasmée et avec des Allemands fantasmés.
Donc en fait, même si toi, tu n'as pas vécu là, ça fait quand même partie de ton univers d'une manière ou d'une autre.
Mais ça fait partie de tes souvenirs. Et donc, mes souvenirs, c'est mon monde. Tu attends mon univers. C'est l'univers de mon père. C'est mon monde.
Benoît est mort un mois plus tard. Mais l'histoire d'Émile n'allait pas mourir avec lui. Quelques mois après, à titre posthume donc, sort le jeu de Benoît. Siberia, The World Before. Oui, ce monde d'hier, celui de Stefan Zweig, avec des trames à destination de Baden et une musique jouée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Avec une héroïne, obnubilée par le portrait d'une femme qui lui ressemble étrangement et qui se lance dans une quête pour savoir qui elle est. Et puis des énigmes, dignes de la saga Point and Click créée par Benoît, mais aussi à la hauteur des mystères laissés par la Mallette Verte. Après la mort de Benoît, je me suis à mon tour emparée de l'histoire d'Émile. Tour à tour, nous avions tous les deux été fascinés par cette histoire. Mais là où Benoît y avait puisé son imagination, moi j'avais comme ambition de retrouver la vraie version de l'histoire. Comprendre qui était Émile et comment Maria était morte. Alors je suis partie de l'enquête entamée par Manu, autre membre de la famille que l'histoire a hantée, et j'ai retrouvé une quantité d'archives impressionnantes. Avec l'aide d'historiens pour les décrypter, elles m'ont fait découvrir des chapitres entiers de l'histoire. J'ai pu comprendre beaucoup de choses. Mais ce que les archives administratives ne racontent pas, ce sont les émotions, les motivations, les peurs qui ont pu guider les événements historiques. Alors mon ambition de tout pouvoir expliquer était sans doute un peu prétentieuse. La Mallette Verte, une série de Perrine Sokal. Épilogue.
Bienvenue chez Voicemail.
Le fossoyeur
n'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Merci pour votre appel.
Oui, bonjour monsieur. La commune de Boussu m'a donné votre numéro parce que je recherche une tombe, celle d'Émile Sokal. Il est apparemment enterré à Boussu-Centre en pleine terre commune. Il est mort le 28 juin 1953 et je voulais voir si vous pouviez m'aider à localiser où il est enterré. Merci beaucoup. Au revoir.
L'histoire d'Émile, elle a plusieurs versions possibles. Côté pile, il y a un honnête marchand d'art juif qui aide les ordres catholiques et se retrouve victime de l'antisémitisme dans l'Allemagne nazie. Et puis côté face, il y a cette autre version de l'histoire. Émile, l'escroc, qui vend les biens d'église par opportunisme et qui, par appât du gain, falsifie des tableaux. Mais les humains ont plus de facettes qu'une pièce de monnaie. Et l'histoire n'est pas en noir et blanc. Ce sont les hommes et les femmes, dans toute leur complexité et leur nuance, qui en façonnent la véritable texture.
Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé.
Ouais, mais je te laisse.
Allez, 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 allez.
Bonne journée.
Merci, toi aussi.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien, et vous?
Ça va, ça va.
Vous venez d'où?
Je viens de Bruxelles.
Ah ouais, vous avez une petite...
Oui. C'est ça que j'ai mis un peu de temps
allez,
à venir.
Dites-moi.
Eh bien, donc, je cherche la tombe de mon arrière-grand-père, oui. Émile Sokal. Il est mort en 53.
Ok. Et... Je vais vous montrer les pleines terres, comment c'est fait à la base.
Oui.
Et après, je vous montrerai, logiquement, il devrait être là. Parce qu'en fait, tout ce qui est en dessous de 1970 ont été exhumés. Enfin, je ne sais même pas s'ils ont exhumé et ils ont réenterré au-dessus.
D'accord.
Donc, je vous montre un petit peu comment, ça, enfin, comment ce qu'on procède.
Ok.
Et après, je vous montrerai l'endroit.
Un historien rencontré pendant mes recherches m'a dit « Ce qui aide bien quand on ne trouve pas l'information qu'on recherche, c'est qu'on peut tout imaginer. » Alors voilà ce que moi j'imagine. Je crois qu'Émile était un marchand d'art comme un autre. Pas mieux, pas pire. Mais acculé par l'antisémitisme, il a dû faire preuve de ruse. Oui, Émile a vendu des objets religieux par opportunisme. Car en temps de crise, les monastères avaient beaucoup d'objets à vendre. Mais bon, peut-on lui en vouloir de choisir un domaine où il y a du travail? Dans un contexte où les nazis menacent de s'en prendre à l'église, il prend des risques en les aidant. Mais il a besoin d'argent. Il est en difficulté financière. C'est en tout cas ce qui expliquerait qu'ils ont dû vendre leur maison. Cette maison dans laquelle Maria écrivait qu'elle se réjouissait d'emménager. Les archives de Vienne montrent que la famille l'a vendue quelques années plus tard pour louer ailleurs. Ces problèmes d'argent expliqueraient aussi qu'Émile prend parfois du temps à remettre l'argent qu'il doit aux vendeurs lorsqu'il clôture des ventes, comme l'historienne Lucie Kautmann a pu remarquer. Et ce serait pour ça aussi que des agents se sont présentés chez lui pour saisir un de ses tableaux. Ça, c'était une anecdote rapportée dans un des articles sur le procès. Émile avait remplacé le tableau à saisir par une pâle copie. J'imagine que lorsqu'il perd sa fortune, peut-être car il devient difficile de faire affaire quand on est juif, Émile est acculé. Et quand on lui propose une affaire douteuse, il ferme les yeux. Et c'est comme ça qu'il vend des faux tableaux. Quand il voit qu'il risque la prison, il décide de fuir. Peut-être par peur d'assumer ses actes, mais peut-être aussi plutôt parce qu'il devait bien se douter qu'une telle sentence d'emprisonnement pour un juif, en Autriche, en 39, pouvait être une sentence de mort. Car la principale raison de son départ reste qu'il était juif. Juif en Autriche, un pays qui s'est longtemps dit première victime du nazisme, mais qui en réalité a accueilli Hitler à bras ouverts en mars 38. Avant même que les mesures anti-juives du régime nazi n'entrent en vigueur en Autriche, les Juifs sont exposés à des attaques, des humiliations et des abus de la part de la population. Leurs magasins sont pillés, peut-être même le magasin d'antiquités d'Émile. J'ai retrouvé son dossier d'aryanisation, c'est-à-dire la confiscation de ses biens par le régime nazi en raison de son appartenance juive. Le dossier conclut qu'il n'y a rien à saisir et que les articles qu'il avait dans son magasin n'étaient là qu'en dépôt et ne lui appartenaient pas. Moi, je m'imagine qu'il avait bien organisé les choses. Certes, il avait perdu sa fortune, mais je pense qu'il avait aussi réussi à organiser son insolvabilité et à planquer ses biens. Peut-être notamment la peinture qu'on était venu lui saisir et qu'il avait remplacée par une copie. Et puis il y avait aussi ce conteneur de 19 tableaux qu'il avait envoyé en Grande-Bretagne avant la guerre et qu'il a récupéré en 1948. Il devait se douter que les nazis ne tarderaient pas à s'en emparer. Car tout porte à croire qu'il était rusé et qu'il avait appris à jouer avec les règles. Quand il arrive en Belgique, il embellit son dossier. Il ne ment pas tout à fait, mais force le trait de son rôle dans la vente du calice et ses conséquences. Et évidemment, il ne mentionne pas l'affaire judiciaire en cours. Une fois la Belgique envahie, quand on demande aux Juifs de se déclarer comme tels, il n'en fait rien. Et il évite le port de l'étoile en faisant jouer ses relations à la commandanture. Alors oui, Émile était un filou. Oui, il contournait les règles. Mais c'est aussi ce qui lui a sauvé la vie, à lui et à ses enfants. Sa femme Maria, par contre, n'a pas eu cette chance. Elle s'était retrouvée dans une situation incroyablement difficile. Quand Émile est parti pour la Belgique en février 1939 et qu'il n'arrive pas à faire venir la famille, Maria était coincée à Vienne avec les enfants. Une situation de plus en plus dangereuse chaque jour. Certes, Maria était catholique, mais à Vienne, les enfants étaient bien inscrits sur les registres des naissances juifs. Et puis, Maria avait beau être catholique, elle était mariée à Émile, un juif. Ils formaient un couple mixte et elle devait subir des pressions énormes pour divorcer. Au moment du départ d'Émile, la famille est expulsée de la maison en location, entre-temps aryanisée, car les propriétaires étaient juifs aussi, d'après les archives de Baden. La suite, on la connaît. La mort de Maria est précipitée par des conditions de négligence qui sonnent comme un prélude au programme Action T4. Le reste de la famille réussit à traverser la guerre en se faisant discret et en bénéficiant d'un contexte malgré tout un peu moins dangereux qu'en Autriche. En 1953, Émile meurt criblé de dettes. Ses enfants doivent refuser son héritage et l'enterrer en pleine terre. Mais ils réussiront tous les trois brillamment leurs études, feront une grande carrière, se feront naturaliser belges, se marieront à des femmes belges catholiques et fonderont leur famille. Tout cela au prix, certes, de l'oubli de leurs origines. Le prix à payer quand ces origines ont déjà tellement coûté.
Donc ici, on est dans les plus anciennes. Je vous ai dit 1970, mais je pense que... Ouais, ben voilà, 1975. Avant ça, ça c'est la plus ancienne.
Donc avant ça, 53, c'est forcément que...
C'est fini.
C'est fini.
Ouais.
Bon, on va dire que c'est ici, dans...
Ouais,
dans ces environs.
Malheureusement, c'est comme ça. Avant, voilà. Déjà, il n'y avait pas de PC, il n'y avait pas tout ça.
Ouais.
Et puis, les fossoyeurs, quand ils finissaient leur carrière, ils prenaient leurs livres avec eux, je ne sais pas pourquoi faire. Et voilà, après, les nouveaux, dès qu'ils arrivaient, ben, ils étaient dans le jus parce que aucune indication.
Ouais.
Et ici, nous, ce qu'on est en train de faire, enfin, ce que je suis en train de faire avec mon collègue, c'est que voilà, on essaye de faire en sorte que plus tard, ils ont beaucoup plus facile que nous parce que. Aller retrouver une tombe ici, c'est vraiment... Puis savoir combien aussi il y en a dedans, parce que quand on ouvre des tombes, des fois, c'est rempli, parce qu'il n'y avait pas de fiche caveau, donc rien n'est mis à jour, donc on a un peu de mal, quoi.
Oui. Bon.
Voilà, c'est un tout carré, là.
Voilà, Émile. C'est comme ça que j'ai choisi de m'imaginer ton histoire, celle de notre famille. Alors, tu vois, ton histoire, elle continue. Parfois un peu interprétée, parfois un peu fantasmée. Nous la racontons chacun et chacune à notre manière. Mais après tout, n'est-ce pas ça l'essence même d'une histoire de famille? celle qu'on raconte aux réunions de famille, celle qu'on se transmet, celle dont on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, celle que nous forgeons parfois tout autant qu'elle nous forge. Finalement, ce qui importe, ce n'est peut-être pas tellement l'histoire que la manière dont nous la recherchons, la racontons, la transmettons. Ton histoire, Émile, et celle de mon grand-père Gérard, elle restera la vôtre. L'histoire que j'ai mise à jour n'en est qu'une version. En passant entre mes mains, sous mes yeux et dans ma voix, cette histoire est devenue la mienne. En cherchant à te connaître, toi et Maria, mes ancêtres, j'ai aussi redécouvert ma famille. Des tantes, des grandes tantes, leurs enfants et petits-enfants. Tous unis dans cette quête d'origine. Et puis, j'ai redécouvert mon grand-père. Ou plutôt, cette partie de sa vie qu'il avait enfouie, oubliée, et qui ne ressurgissait que par moments, à travers cette étincelle dans son regard. Celle sortie tout droit de ses souvenirs d'enfance, et que le présent rallumait lorsqu'il écoutait Beethoven, ou savourait une part d'Apfelstrudel.
Quelque chose qui pourrait m'intéresser? Dites-moi.
Voilà, j'ai retrouvé ici l'ancien carnet. Et là, il y a son nom aussi.
Oh, génial!
Et alors, il est... Là, normalement, c'est le premier carré, donc ce serait le carré de droite. Et c'est au quatrième emplacement, mais maintenant, comment est-ce qu'il travaille avant? Donc voilà, anciennement, les fossoyeurs travaillaient d'une autre manière. Et ici, logiquement, c'est la première parcelle. Ici, comme vous voyez, il y a le numéro 1, 2, 3, 4. Ça doit être le quatrième de la première rangée.
C'est là où vous m'aviez montré.
Ouais, là,
hein.
C'est sûr, là. Là, ah, c'est okay. Sûr. Voilà.
Ça me fait plaisir d'avoir son nom.
Au moins, vous l'avez vu.
Bon, mais ça me fait super plaisir d'avoir vu ça au moins dans le livre, à défaut d'avoir pu retrouver sa tombe.
Voilà.
Enfin, allez. Bon, je sais où il est, plus ou moins.
Ouais, maintenant, c'est sûr que c'est là. Parce que c'est le premier carré, il y a carré 1, carré 2, carré 3. Mais il n'y avait pas de plan à ce moment-là.
Ouais.
Allez, je vous laisse.
Merci.
Allez.
Bonne journée.
Salut, au revoir.
La Mallette Verte est un podcast réalisé par Perrine Socal. Une production du Xara ASBL, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Écriture et réalisation, Perrine Socal. Montage, Thibaut Kuckelbergs. Mixage, Maxime Thomas. Musique, Maxime Lucier. Illustration, Clémentine Lénel. Un tout grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce podcast. À mes parents et à ma famille qui se sont prêtés au jeu. À Benoît Socal qui a mis au jour l'histoire d'Émile. À Manu et Catherine Socal qui ont fait les premières recherches dont je suis partie. Et à Lucie Cotman qui m'a aidée dans les recherches historiques complémentaires. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont prêté leur voix pour des lectures ou des jeux d'acteurs. Louise Barrault, Thibaut Kuckelbergs, Anna et Miles Kuckelbergs, Maxime Lambrecht, Jean Minetto, Sarah Segura, Guillaume Socal et Pierre Van Grootloon. Merci aux experts et aux historiens que vous avez entendus et à toutes celles et ceux qui m'ont conseillé en coulisses. Merci aussi aux archivistes et à celles et ceux qui ont prêté leurs oreilles pour me faire leur retour. Merci enfin à mon mari Simon et à mes enfants Célestin et Manon de m'avoir soutenue dans ce projet.
Deux grands témoins de l'histoire qui se sont tués aujourd'hui, René Reindorf, résistant et juif, rescapé d'Auschwitz et de Mauthausen, et André Tatz, résistant et prisonnier politique à Dachau.
Il ne m'apparaissait pas aussi important, décisif d'en parler au lendemain de l'aventure qui m'a conduit de Brain Dunk pendant 8 mois à Auschwitz, pendant 9 mois et Mauthausen pendant 4 terribles mois.
René Reindorf.
Parce que d'abord nous étions à peine crédibles et puis les gens voulaient vivre. Et puis les rescapés, notamment d'Auschwitz, qui avaient tout perdu, toute la famille, tout, devait lécher leurs blessures, se réinventer une vie, etc., etc. Et par conséquent, moi, j'étais dans un meilleur cas que d'autres. Ma mère était toujours là, mon frère a été décapité, mon père a été gazé, donc la famille, un rescapé, c'est moi pour l'instant. Et je n'ai pas cru nécessaire de courir pour en parler, mais j'en ai parlé en 46, 47, 49, quand on me le demandait. La différence avec 1990, c'est que maintenant, je supplie qu'on me le demande. C'est pour ça que je vous mets à l'aise. Je cours les écoles en disant « Invitez-moi, je veux parler. » D'abord parce que j'ai plus très fort le temps, 40 ans ayant passé... Nous ne sommes pas immortels. Et puis, les raisons, notamment, qui ont fait de l'amicale des anciens d'Auschwitz en 1980, après un voyage de jeunes à Auschwitz en 1978, qui a été illustré par Beuyens et Chagall dans Un jour, les témoins disparaîtront, médiathèque de la communauté française. En 78-80, on est passé à la fondation Auschwitz, notamment en faisant le voyage à Auschwitz biennal à l'époque avec les enseignants. Parce que nous voulions créer des héritiers de mémoire. Pourquoi ? D'abord parce que nous allions disparaître, et ensuite parce que deux phénomènes nouveaux étaient apparus chez nous, et pas seulement chez nous, c'est-à-dire à la fois le négationnisme de ce qu'il y avait de plus horrible dans l'extermination et le génocide de juifs et de tziganes, notamment à Auschwitz et ailleurs, dans les camps d'extermination polonais, ce qui était quand même excessif. D'autre part, le retour de pratiques nationales et internationales, nationalistes, chauvines, guerrières, impérialistes, fascistes, racistes, génocidaires, à travers le monde et même en Europe.
Moi, je suis arrivé à la résistance parce que, en 1939, je suis entré à l'armée. J'ai fait 6 mois, j'étais candidat officier de réserve à l'artillerie. J'ai fait la drôle de guerre de quelques jours et j'ai été arrêté à la Somme. Comme prisonnier, je suis revenu à pied jusque Chimay et arrivé à Gemelle, un peu plus loin. Là, je me suis évadé. Mais m'étant évadé, j'ai dû me cacher, j'ai pris du travail sur un chantier de reconstruction de ponts de chemin de fer en Ardennes pour éviter d'être repris par les Allemands. Et automatiquement, d'abord ayant été élevé par un père très anglophile d'une part, et d'autre part étant moi-même en situation irrégulière vis-à-vis des Allemands, je n'ai eu qu'un souci, c'était de rejoindre l'Angleterre pour continuer à me battre, d'autant plus que nous avions énormément de relations en Angleterre. C'est comme ça.
André Tatz.
Quand je suis rentré en juin 40, comme prisonnier de guerre, j'ai été scandalisé de voir l'attitude des populations. Probablement, l'occupation était arrivée tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps de s'y faire, il n'avait pas eu le temps de considérer. Mais comme tous les vainqueurs faciles, les Allemands étaient, paraît-il, très gentils. Le nombre de gens qui m'ont dit oh, « mais ils sont gentils, c'est plus les Boches de 14-18, il faut voir, ils sont charmants, etc. » Vous comprenez bien que ce discours n'est pas fait pour vous encourager. Le fait d'avoir été pris comme prisonnier de guerre et de m'être évadé faisait que automatiquement je cherchais à combattre pour mon pays. Et mon père étant, de par définition, très anglophile, ayant beaucoup d'amis en Angleterre, mon rêve, moi, était de retourner en Angleterre pour aller recombattre pour la victoire. Et c'est en essayant, donc, dans la première tentative par la France, que j'ai été arrêté à Port-Vendres. Mais quand je suis revenu la deuxième fois donc, de France... Là, les mentalités avaient changé déjà, parce que le ravitaillement était plus difficile. Et vous savez, quand on prend les gens à l'estomac, leur attitude change. Alors, le marché noir avait commencé à faire florès. D'autre part, il y avait déjà eu quelques petites attitudes germanophobes. Il y avait eu quelques officiers de tués, etc. On avait pris des otages, il y avait eu des otages fusillés. Donc, l'attitude changeait. Mais vous aviez quand même encore très difficile de dénombrer quels étaient les résistants et quels étaient les collaborateurs. Alors il fallait être très prudent. Et c'est en fait de proche en proche, en rencontrant des copains d'école, etc., que pour finir, vous trouvez, il suffit que vous trouviez un bout de la corde et vous attirez, je dirais, toute une série de possibilités. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai transporté des armes, j'ai fait du renseignement, j'ai aidé des aviateurs anglais à traverser la Belgique, etc. C'est passionnant quand vous avez 20 ans et que c'est un idéal. Évidemment, on va payer cher après, mais ça, ça ne fait rien.
Vous n'avez pas de regrets ?
Aucun. Aucun. Et je n'ai pas de haine non plus. Mais je n'ai rien oublié.
Moi, j'avais la double qualité d'être à la fois résistant et juif, ce qui m'a donné un plus, dans le sens où j'étais arrêté sur dénonciation comme résistant, enfermé au cachot de Brindung. Cellule 22 pendant 8 mois au cachot, ce qui est très désagréable mais pas tuant, jusqu'à ce que cette dénonciation se soit avérée fausse dans ses détails, parce que le dénonciateur ne connaissait pas ma véritable activité, d'où la Gestapo a décidé de me transformer en juif ordinaire, et je suis passé à Malines, au camp de rassemblement des juifs pour être déporté à Auschwitz avec le prochain train. Et j'ai passé donc 9 mois à Auschwitz, parti dans ce train du 4 avril 1944, ce train effroyable, qui est une des choses les plus douloureuses que j'ai subies au point de vue physique, parce que c'était un voyage insensé, dans des wagons à bestiaux, on était 80, dans une mission innommable. Bon. De là, j'ai donc eu la chance d'avoir fêté mes 25 ans à Brindung, où j'ai d'ailleurs réussi à me procurer, grâce à ma connaissance de l'allemand, voyez Semprun, voyez Lévy, l'aide d'un soldat allemand de la Wehrmacht qui m'a aidé dans mon cachot à Brindung au risque de sa vie à avoir une liaison avec Bruxelles, ce qui est évidemment 1000 fois interdit. Et il a finalement payé de sa vie quand même son courage, ce soldat ordinaire, de l'armée ordinaire, qui n'était pas un SS, qui était un Allemand, courageux, pitoyable, bien. Et alors à Auschwitz, j'avais donc 25 ans, ce qui est un bon âge, et j'ai été sélectionné parce que mai 44, c'est mai 44, c'est un mois avant le débarquement, j'ai été sélectionné dans les usines de guerre allemandes pour renforcer une main-d'œuvre de plus en plus amputée par les départs au front. Et je me suis trouvé ouvrier métallurgiste, fabriquant des affûts de canons anti-aériens, pas très bien, mais pas trop mal pour ne pas être pendu, pendant 9 mois dans une usine des environs d'Auschwitz, dans un commando d'Auschwitz qui s'appelait Lorahütte, où il y a toujours un arsenal de l'armée polonaise. Aujourd'hui, parce que je suis retourné une fois jusqu'à mon commando, je n'étais pas à Auschwitz proprement dit, mais dans une dizaine et des dizaines de sous-camps, charbonnage, chantier, buna, fabrication de caoutchouc synthétique, etc., dans lesquels se trouvaient les déportés en état physique de contribuer à la fourniture de munitions, de matériel à l'Allemagne, de plus en plus en passe d'être vaincu. Voilà mon histoire d'Auschwitz, et c'est seulement au lendemain de l'invasion, de l'offensive des Ardennes en Belgique qui nous a été racontée par nos gardiens, que les Soviétiques ont lancé l'offensive finale du 13 janvier et que la Pologne a été libérée assez rapidement. Auschwitz a été libérée le 24 janvier, 27 janvier finalement. Et moi-même, au lieu de faire les marches de la mort comme tout le monde et de mourir sur les routes dans la neige et le froid comme tout le monde, ouvrier de la défense nationale, jouer le paradoxe jusqu'au bout, j'ai été transporté dans un train avec les SS, les contre-maîtres allemands, les prisonniers de guerre soviétiques, les juifs, les résistants, tous dans le train pour refaire l'usine quelque part. Fin janvier 1945, nous avons abouti à Mauthausen, un camp effroyable d'ailleurs. Et à Mauthausen, j'ai terminé la guerre le 5 mai 1945, planqué dans un camp hôpital qui s'appelle le Russenlager, à Mauthausen, où j'ai maigri consciencieusement jusqu'à 39 kilos, avant que le 5 mai, les Américains arrivent évidemment les premiers dans la course avec les Russes pour libérer le camp, et que le 19 mai, après beaucoup de prudence, parce que je vais quand même garder ma tête, surtout alimentaire, parce que les gars sont morts de trop manger, ce qui était évident, mais absolument impossible de leur expliquer. Je suis parti, je suis rentré en Belgique en passant par un hôpital militaire français qui m'a gardé 3 mois et demi pour me retaper, ce qui était une bonne idée. Et puis par un sanatorium en Suisse qui m'a gardé 6 mois pour guérir une tuberculose, ce qui n'est pas inutile non plus pour expliquer que je suis encore là 50 ans après, ce qui n'était pas prévu, même si j'espérais en sortir.
J'ai eu la chance de revenir de captivité, parce que j'ai fait une captivité très longue, j'ai fait 40 mois pour les Allemands. J'ai passé toutes les gradations des systèmes carcéraux et concentrationnaires des Allemands pour terminer en beauté à Dachau. Je suis revenu avec 38 kilos, j'avais perdu 60 kilos de bonne viande en cours de route. J'en pesais 98 avant de partir. Avec 1m92, ça fait peu, 38 kilos. J'étais d'ailleurs sur la liste de ceux qui allaient bientôt passer dans la charrette de ramassage des morts. Bon, ils sont arrivés vraiment à temps, les alliés.
Je dis dans les écoles, avec un sourire malicieux, apprenez les langues, ça peut servir. L'allemand m'a sauvé, bien entendu. Semprun, Lévy, qu'est-ce que c'est connaître l'allemand? Ça signifie comprendre 3 secondes avant tous les autres ce qui va se passer, donc échapper à ce que les autres n'ont pas compris et dans lequel ils vont tomber. C'est fou, mais il faut le voir pour comprendre.
Du fait que j'avais appris l'allemand, c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs, je me suis défendu tout seul en allemand au tribunal. Tous les autres ont été condamnés à mort et exécutés. Comme j'étais dans 2 affaires différentes, j'ai pu jouer là-dessus et je suis passé au travers. J'ai eu beaucoup de chance. Mais comme j'étais donc d'office connu comme étant possédant la langue allemande, partout où j'allais, on me disait « il parle allemand ». Et partout où j'arrivais, on me disait « Sie werden Dolmetscher, vous serez interprète ». Le fait que j'étais interprète m'a évidemment donné l'occasion de parler avec des gardiens, mais toujours avec la distance que je voulais maintenir. Je n'ai jamais fraternisé avec ces gens-là, jamais, jamais, jamais. J'ai passé devant le Volksgericht, le tribunal du peuple. Mais c'est une parodie de jugement. Pourquoi tout ce tralala? Pourquoi toute cette dépense? Il y a un tas de gars galonnés qui viennent pendant 2 jours parader devant vous pour soi-disant vous entendre. C'est un avocat allemand qui est désigné d'office, qui vous défend, soi-disant, et c'est un interprète qui ne parle à peine 3 mots de français, qui soi-disant fait la traduction. C'est grotesque même. Ce ne serait pas la guerre, vous en ririez. Mais c'est tragique quand vous pensez que c'est en pleine guerre, et que votre sort, en fait, ne tient qu'à un fil. Je vous dis, c'est bon que j'étais dans 2 affaires différentes, et qu'à ce moment-là, j'ai joué sur le fait que j'avais demandé 27 fois à Bruxelles à pouvoir être confronté, que je ne l'avais pas été, et pour gagner du temps simplement, pour gagner du temps, parce que tout ce qu'ils savaient était vrai, mais pour gagner du temps, j'ai dit, le président a dit qu'il allait rendre un jugement équitable, si vous voulez rendre un jugement équitable en ce qui me concerne, vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire. 27 fois j'ai demandé à être confronté, je n'ai jamais été, alors accordez-moi la confrontation. Et de ce fait, j'étais au bout de la liste. Tous les autres ont été zum Tod verurteilt, donc condamnés à mort, tous, les 5 femmes aussi. Elles ont été envoyées à Ravensbrück. Et moi, le dernier, vertagt für Gegenüberstellung, donc ajourné pour confrontation, qui n'a jamais eu lieu parce que les papiers se sont perdus dans les bombardements de Berlin et de Potsdam, et que le gars avec lequel je devais être confronté a fini par être fusillé au tir national, qui avait d'ailleurs trahi mon meilleur ami, notamment.
Il y a dans ce monde nouveau tant de gens pour qui plus jamais ne sera naturelle la douceur. Il y a dans ce monde ancien tant et tant de gens pour qui toute douceur est désormais étrange. Il y a dans ce monde ancien et nouveau tant de gens que leurs propres enfants ne pourront pas comprendre. Ô vous qui passez, ne réveillez pas cette nuit les dormeurs.
L'usine égalisait tout le monde. L'usine de Rheinmetall Borsig, la firme existe toujours, dans laquelle je travaillais avec ces Allemands sur lesquels j'ai trouvé un jour dans un journal allemand, chez le contremaître allemand, où j'ai pu furtivement lire les petites nouvelles. J'ai trouvé cette nouvelle qui m'a fait pleurer comme une madeleine. Mais il faut être bruxellois pour comprendre tout à fait, c'est que ce journal hitlérien annonçait le 6 ou 7 septembre 1944 que les Anglais, ayant pris Bruxelles, ont débaptisé l'avenue Longchamp pour l'appeler avenue Churchill. À Auschwitz, je vous dis, j'ai pleuré comme une madeleine de mon avenue Longchamp. Voilà, les petits incidents incroyables d'une vie difficile. 12 heures de travail par jour, 12 heures de travail de nuit, 12 heures de travail de jour, de semaine en semaine, on passait en équipe de nuit, en équipe de jour, il fallait du rendement. Mais enfin, 12 heures de travail à une machine en usine, ça n'est pas tuant en soi. Surtout qu'ils étaient obligés de nous nourrir un peu pour que nous puissions être capable de travailler le lendemain. C'était le conflit entre les SS et les industriels. Les industriels disant « j'ai besoin de production », les SS disant « j'ai besoin de les tuer ». de ce conflit, quelques-uns ont surnagé, j'en suis un.
Le malheur qui m'étreignait ne provenait d'aucun sentiment de culpabilité. Certes, il n'y avait pas de mérite à avoir survécu, à être indemne en apparence du moins. Les vivants n'étaient pas différents des morts par un mérite quelconque. Aucun d'entre nous ne méritait de vivre, de mourir non plus. Il n'y avait pas de mérite à être vivant. Il n'y en aurait pas eu non plus à être mort. J'aurais pu me sentir coupable si j'avais pensé que d'autres avaient davantage que moi mérité de survivre. Mais survivre n'était pas une question de mérite. C'était une question de chance, ou de malchance, au gré des opinions. Vivre dépendait de la manière dont tombaient les dés, de rien d'autre. C'est cela que dit le mot chance, d'ailleurs. Les dés étaient bien tombés pour moi. C'était tout.
Vous ne savez pas de quoi sera fait votre lendemain. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a malgré tout toujours une espèce d'anxiété. Mais d'autre part, il y a un souci permanent de garder votre dignité, de rester un homme, de ne pas vous laisser abêtir par ce système, un système carcéral aussi terrible. Et en troisième lieu, il y a les amitiés. Moi, j'ai fait 4-5 amis là-bas au cours de ma captivité. Au fil des mois ou des endroits où j'étais, j'ai rencontré l'un, j'ai rencontré l'autre. 9 fois sur 10, c'était des gens plus âgés que moi. Mais on s'accompagnait, je dirais, on s'enrichissait l'un l'autre pendant ces quelques mois, et on savait très bien que c'était une amitié qui n'allait peut-être pas perdurer parce qu'on allait être envoyé l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et il y en a beaucoup de ces amis que je n'ai jamais revus parce qu'ils sont morts là-bas. Il y en a un seul qui est rentré et qui est mort très vite après. Mais toute cette amitié, toute cette dignité que vous devez acquérir, tout ce besoin que vous avez de regarder votre bourreau en face, dans le blanc des yeux, et de ne jamais baisser la tête, vous forge le caractère, c'est indéniable. Alors, il y a énormément d'historiens qui vous disent, par exemple, que tous les Allemands étaient nazis. Moi, je récuse cette accusation. Il faut bien vous dire qu'à partir du moment où un peuple a, mettons, en appliquant mal la démocratie, permis à un totalitaire de prendre le pouvoir, c'est comme un rapace, il sert le pouvoir, il le garde, il vous dit qu'il le prend pour le rendre au peuple. Ça, c'est la théorie de Ferré ici en Belgique aussi. Ce sont des théories absolument fallacieuses. Ils prennent le pouvoir et ils font marcher le peuple comme ils l'entendent. Alors, il faut bien vous dire qu'au départ, c'est une minorité qui le suit. Mais petit à petit, il y a des tas de gens, et notamment l'instructeur que j'ai eu ici à la Geheimfeldpolizei à Bruxelles, était un professeur de français dans une école technique en Allemagne, du côté d'Hanovre, je crois. Il avait fait ses études de français en France, ce qui m'a permis d'ailleurs de le flatter, de lui dire qu'il parlait splendidement bien le français, et ce qui a permis d'avoir des contacts avec lui. C'était un vrai jeu d'échecs, ces interrogatoires. Mais ce gars, lorsqu'il a passé au tribunal, au conseil de guerre à Bruxelles en 1950, je l'ai entendu dire qu'en fait il avait été obligé de signer son adhésion au parti nazi, sinon il perdait sa place. Alors, il était marié, il avait des enfants. Alors je crois que les contingences matérielles des gens dans une situation de totalitarisme absolu fait que ils ne sont pas tous des héros. Ils n'ont pas tous envie de dire « Non, je ne signe pas et fusillez-moi si vous voulez. » Ils ont une femme, ils ont des gosses, ils pensent à tout ça. Et toutes ces contingences matérielles ont une importance capitale.
Mes rapports ont été essentiellement dans les camps de concentration allemands d'Auschwitz et de Mauthausen avec des Juifs de différentes origines nationales, y compris polonais, accessoirement des Polonais, des Soviétiques, des Français, de toutes sortes d'autres détenus allemands ordinaires. Voilà, ça se passait donc d'une façon très variable. Il y avait dans les camps, je vais essayer de deviner votre pensée, beaucoup de solidarité et beaucoup d'effroyables égoïsmes meurtriers. J'ai heureusement pu avoir beaucoup de solidarité, j'en ai exercé un petit peu aussi, mais il y a eu des exemples effroyables de chacun pour soi, qui est la nouvelle idéologie dans laquelle baigne notre civilisation occidentale pour l'instant, le chacun pour soi, qui est une imbécilité odieuse, mais imbécile, ce qui est pire, comme le racisme est imbécile, ce qui est pire que d'être dégueulasse. Et par conséquent, les rapports dans le camp étaient extrêmement complexes, extrêmement durs parfois, extrêmement bons parfois. On essaie de reconnaître ceux qui avaient le sentiment de solidarité, d'appartenir à un même combat anti-hitlérien et qui voulaient résister, et qui savaient qu'il fallait s'entraider pour survivre, ceux-là ou d'autres qui ont été suffisamment dégueulasses que pour marcher sur la tête des autres et survivre à cause de cela, comme le dit d'ailleurs également Primo Levi dans certains textes. Il y avait deux façons d'en sortir, par le courage, la chance, la santé, la solidarité, beaucoup, 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 beaucoup de chance, ou d'en sortir en piétinant les autres, en étant le plus fort et en faisant triompher le plus fort, en écrasant les faibles, dans les conditions inhumaines, infrahumaines du camp de concentration et d'extermination, est parfaitement affreux et parfaitement compréhensible à la fois. À Brindong, il y avait des moutons dans les camps de concentration qui dénonçaient pour le compte des SS. Il y avait des chefs de bloc, des chefs de camp, des chefs de commando, des capots qui étaient dégueulasses grâce au petit pouvoir d'autorité qu'ils recevaient de la part des SS qui se déchargeaient sur eux de la pratique quotidienne de la direction des opérations, qui tuaient, volaient, violaient, comme d'autres. Et par conséquent, il fallait extrêmement être extrêmement attentif et ne pas tomber dans cette division entre prisonniers fabriquée par les SS et la Gestapo pour faire se déchirer entre eux, pour avilir, humilier déjà Brindong, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, pardonnez-moi, d'être au cachot comme moi et qui ont travaillé dehors à Brindong. C'était effroyable, je serais mort si je n'avais pas été au cachot. Et comme ça, ma survie est pleine de paradoxes incroyables et successifs, dont ma présence aujourd'hui est le produit final.
Vous arrivez là à l'extrême paroxysme d'une violence sauvage, mal définie, mais où tout est permis. Quand nous sommes rentrés dans ce camp, on nous a mis tous tout nus. Il y avait deux gars, on passait dans une pièce, il faisait froid d'ailleurs, on passait dans une pièce, il y en avait un qui nous rasait le crâne, et puis l'autre qui nous rasait tout ce qui nous restait dans le système pileux. Et puis on passait dans une pièce suivante, où là il y avait un gars qui trempait une brosse à tapisser dans un seau d'eau froide avec du créosote, et on nous badigeonnait de créosote un peu partout. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, quand vous êtes dans une prison normale, dans un système carcéral plus ou moins organisé comme en temps de paix, même si c'est la guerre, vous pouvez encore soit user du sabotage si vous êtes obligé de faire quelque chose, soit user de l'ironie si vous êtes ensemble, soit réagir d'une façon digne. À partir du moment où on vous traite pire qu'un animal qui va partir à l'abattoir, l'ironie n'a plus cours, le sabotage n'a pas de prise, vous ne travaillez pas. Vous n'avez même plus envie de conversation intelligente. Vous êtes abêti, vous êtes écrasé. Quand je suis descendu du train devant Dachau et que ces SS nous aboyaient dessus et nous tapaient dessus avec leur mitraillette sur le ventre, de l'autre côté, il y avait un train de wagons en bestiaux où tous les gens qui étaient probablement des prisonniers juifs avaient été passés à la mitraillette. Ils étaient tous morts à la descente du train ou dans les wagons, on les voyait là, en grappe, morts. Quand vous voyez ça et que vous vous dites, j'ai passé 36 mois ou 35 mois à me défendre, c'est pour en arriver là, eh bien, je vous jure qu'à la descente du train, on nous a fait aligner le long du train. À un certain moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous descendre, que ce soit fini, qu'on n'en parle plus. J'étais convaincu qu'on allait y passer. Et puis on nous a rentrés dans le camp, et puis il y a eu un bombardier allié qui est arrivé, que la flag a descendu. Pour ce temps-là, il y avait flig alarme, il y avait alerte aérienne. Alors tous ces courageux SS étaient descendus dans les abris, on nous a laissés seuls au milieu de la cour. On n'a même pas parlé. Seule chose qu'on ait faite, quand on a vu l'avion toucher, on a vu un moteur qui descendait en sifflant, puis on a vu sortir trois petits points noirs et puis trois parachutes s'ouvrir. On a compté 1, 2, 3 et puis c'était tout. Mais on n'a même pas dit chouette, il y en a trois qui sont sauvés. On n'a rien dit. On n'a plus parlé entre nous. Et puis au moment où ils descendaient, ils étaient presque à l'abri de notre vue par les frondaisons qu'il y avait au fond. Juste avant qu'ils disparaissent de notre vue, on a entendu des mitraillettes et on les a vus très sauter au bout de leur suspens et ils sont morts. Et vous vous êtes révoltés Mais vous ne manifestez même pas cette révolte à ce moment-là. Il n'y a personne qui a dit c'est dégoûtant, les salopards n'ont rien, on n'a rien dit.
Laissez-moi vous dire que je connaissais Brindong avant d'être arrêté, parce que la résistance radio, Paul Lévy à Londres, avait déjà raconté Brindong. Je connaissais Auschwitz avant d'arriver à Auschwitz, parce que les radios Londres, Moscou et les journaux clandestins avaient parlé d'Auschwitz, de cette extermination, même si les détails des chambres à gaz ne connaissaient pas. Donc, cette connaissance du danger préalable est une chance formidable qui permet de moins être épouvanté par ce qui vous arrive, puisque vous saviez que ça pouvait arriver si vous étiez arrêté. C'était moins effrayant que de tomber là-dedans, tomber des nues. Alors, on tombe comme des mouches. Ça, plus l'allemand, etc., ont été des conditions, ma bonne santé, merci papa, merci maman, mon bon moral m'ont permis d'arriver jusqu'au bout de ce voyage infernal.
À l'entrée, vous aviez le portique d'entrée, vous aviez quelques bâtiments en dur, des baraquements aussi, tout ça c'était administratif, c'était la place d'appel. Et alors, partant de là, tout droit, il y avait une grande allée. Et de part et d'autre de cette allée, il y avait des alignements de 4 baraques. Et il y en avait beaucoup. Parce que nous, nous étions au 27e alignement, la 4e baraque à l'extrême. Donc nous étions à la 27-4. J'ai appris par après que c'était la baraque des curés. Mais il n'y a plus tellement de curés à l'époque. Alors, de chaque côté de la baraque, sur la petite allée transversale donc, qui séparait les alignements de baraques, on avait dressé des treillis. Et nous étions comme des poules dans un poulailler. Nous étions dans la baraque et puis sur cette petite esplanade. Et nous pouvions parler, bien sûr, mais nous n'avions plus de conversation profonde. Nous n'avions plus, par exemple, de conversation d'avenir. Dachau a été le premier camp de concentration en Allemagne. Et en fait, il abritait jusqu'en 1939 uniquement des Allemands qui étaient opposés au régime nazi. Et qui, eux, vivaient plus ou moins bien et travaillaient, et allaient travailler en commando, etc.
Nous sommes des estomacs. Avec éventuellement un petit supplément de cerveau, un petit supplément de cœur, éventuellement. Donc le rituel social, c'est le repas. Il faut vivre pour manger. Non, il faut manger pour vivre. Et ça, c'est... Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Est-ce qu'on reçoit un pain pour 20? On reçoit rien? Ou un pain pour 19? C'est-à-dire une tranche. Le rituel, c'est le médecin prisonnier qui me dit, attention, si ton pain est moisi et que c'est vert, tu peux le manger. Ce n'est pas dangereux. Si le moisi est blanc, ne le mange pas. Il est toxique. Voilà une nouvelle que je communique dans les écoles pour ceux qui un jour seraient amenés à... Eh bien, sachez que j'ai appris ça à Mauthausen, qu'on ne peut pas manger le moisi blanc, mais bien le moisi vert. À Auschwitz, nous rentrions quand même fatigués de nos 12 heures de travail. Manger au bloc et puis couvre-feu à 8 heures, ce qui est le seul rituel social, le bavardage sur les couchettes voisines. Mais dans les périodes effrayantes de la faim à Auschwitz, nous avons été, et à Mauthausen, nous avons été 4, 5, 6 sur une paillasse d'une personne, en sardine, tête bêche. Et c'était évidemment un peu infernal de vivre comme ça et de dormir un petit peu comme dans les wagons de Malines à Auschwitz. De dormir sur le côté en essayant de dormir sur une cuisse et puis de dormir sur l'autre, parce qu'il n'était pas question de s'asseoir, de se coucher normalement, il n'y avait pas de place.
Je suis rentré. Je suis arrivé pas loin de votre maison. Je suis arrivé place Mézère, avenue Plaski. Et j'ai réalisé tout à coup que, étant NN gefangen, je n'avais plus de nouvelles de mes parents depuis 40 mois. Et j'ai été pris d'une panique subite. Je me suis demandé ce que j'allais trouver à la maison. J'avais encore 10 kilomètres à faire pour me trouver à la gare du Midi, qui était le terminus du voyage. Alors j'ai vu des riverains, j'ai demandé, est-ce que vous avez le téléphone? Oui, certainement, montez, c'est au premier. Je dis non, moi je ne téléphone pas. J'ai donné le numéro de téléphone de mes parents, dont je me souviens encore actuellement, le 37 septembre 20, à Saint-Gilles. J'ai demandé à ce monsieur de téléphoner, de dire que j'étais, je m'appelais André Tatz, et de dire à mes parents, à la personne qui prendrait le téléphone, que je serai à la gare du Midi une demi-heure plus tard, et demander des nouvelles. Et je lui ai demandé surtout que quand il redescendrait, il me dise la vérité. Je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Alors, il est descendu, il avait les larmes aux yeux, mais il était souriant, et il m'a pris par les bras, il m'a dit, tout le monde va bien. Ah, je vous remercie. Alors je suis parti, je les ai remerciés, je suis parti. Et quand je suis arrivé à la gare du Midi, le camion a dû faire un tour. On s'est arrêté devant le bâtiment qui était occupé par la JOC à l'époque, la Jeunesse ouvrière chrétienne. J'ai eu le temps de loin de voir mon père. C'était l'ombre de lui-même. Il pesait 115 kilos avant-guerre, il en pesait encore 45. Moi, j'en pesais 98 avant, j'en pesais 38 à ce moment-là. Et ça nous a permis à l'un et à l'autre de, je dirais, de surmonter notre surprise. Et on s'est retrouvés d'une façon très, très calme et très sereine. On s'est embrassés, on a peu parlé. Et ce n'est que dans le taxi qui me ramena à la maison, qui m'a dit, tu sais, ta mère a été opérée d'un cancer du sein. Puis elle s'est cassée le col du fémur, elle a fort changé, elle a vieilli, etc. Je ne pouvais pas lui dire, mais toi aussi, tu as vieilli. Et en fait, il y avait un tas de monde à la maison. Et ça m'énervait. C'était très gentil, notez bien, hein, il venait me recevoir, mais j'aurais voulu me retrouver seul avec les miens. Il fallait, la réinsertion passait par là. Il fallait que je retrouve le rythme de vie. Vous savez, au tic-tac de l'horloge de la maison, pas dans ce brouhaha avec café et petits gâteaux, ça me plaisait tout juste. Je le ressentais, mais je n'ai rien dit, évidemment. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un certain moment, mon père n'était plus là. Alors je l'ai cherché, il était derrière dans la cour sur un petit escalier de pierre bleue, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains et sanglotant. Et ça fait 50 ans passé maintenant. Cette image, je ne la perds jamais parce que c'est la première et la seule fois où j'ai vu pleurer mon père. Qui était un homme très dur. Il m'avait élevé d'une façon très sévère. Et 8 semaines après mon retour, il est mort.
1945, c'est donc la débâcle allemande. Donc, les ravitaillements n'arrivent pas, les communications ne vont pas. Donc, il n'y a pas de pain. Ils ont passé 5 semaines sans pain, ce qui est étonnant. Et pourtant, il y avait 2 fois 3 quarts de litre d'eau chaude pour entretenir les prisonniers. Et puis, on se demandait comment ça allait se terminer, si on allait tous nous liquider. On avait essayé d'organiser quelques armes de ci, de là, y compris à Buchenwald, dont parle, je crois, Semprun, pour le jour où, à la finale, l'ordre d'exterminer tout le monde serait donné. Et il a été donné à Mauthausen comme ailleurs, mais à Mauthausen, les SS... avec le bruit du canon à l'est et à l'ouest, et l'ordre de Berlin, qui était à la veille de s'effondrer, ont préféré ne pas obéir à cet ordre qui allait faire pendre à coup sûr, 8 jours plus tard, et ont pris la fuite en essayant de nous épargner pour avoir des circonstances atténuantes et essayer d'échapper à leur sort, ce qui est encore une fois de la logique humaine. C'est tout à fait normal. Dans ce camp, on avait une vie quotidienne, sociale, considérable. On essayait de retrouver les copains. J'ai retrouvé Jacques Bergier, j'ai retrouvé Bill Horix, j'ai des copains belges, j'ai retrouvé Julien Lahaut, qui était à ma grande surprise, toujours à Mauthausen, vivant en février 45, qui faisait faire la messe, ce vieux communiste faisait faire la messe sur son lit de Mauthausen par un abbé pour les catholiques belges. C'était très touchant de voir celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas, comme dit le poète, dans cette réalité. Et donc nous avions une vie relativement libre dans nos blocs, dans la sortie de nos blocs, avec des conspirations, avec des maladies, des tentatives d'échapper à la mort. J'ai eu une dysenterie terrible où des copains m'ont sauvé en arrivant à trouver une allumette pour brûler un peu de bois et me donner un peu de charbon de bois, fabrication artisanale, qui m'a sauvé, pourquoi ? De la dysenterie tueuse qui régnait sur Mauthausen. Donc là, il y avait une vie sociale considérable, pas de travail, nous étions dans un camp hôpital, où il n'y avait pas de médicaments d'ailleurs, c'était risible, une contradiction tout à fait grotesque, mais il y avait beaucoup d'animation, chacun essayait de retrouver des copains, des affinités politiques, résistantes, nationales. Et alors il y avait à Mauthausen également des commandos dans lesquels se trouvaient des usines, mais moi j'étais avec les malades dans le camp hôpital parce que je m'étais déguisé en infirmier pour le voyage. Je suis à Mauthausen, puisque j'étais au ministère de la Santé publique, ce que je n'ai pas dit, depuis 1938. Donc, j'ai joué là-dessus pour voyager dans des conditions moins dures dans le train de Mauthausen avec les malades, mais ça m'a valu d'être effroyablement frappé à ce que j'arrivais, comme dans le film de Schindler, de Spielberg, je suis arrivé à une douche avec mes malades dont je n'avais pas pu me dépêtrer. J'ai regardé ces douches avec l'œil que les spectateurs avaient en regardant la liste de Schindler, et ces douches, comme dans la liste de Schindler, c'était de l'eau. Pourquoi ?
pourquoi pas des gaz. Bon, parce que c'était de l'eau, et c'est comme ça que j'ai jamais cru tellement mourir que cette minute-là où j'ai regardé ces douches, moi qui venais d'Auschwitz.
René Reindorf et André Tatz, deux paroles essentielles à ne pas oublier.
Retrouvez Par Où Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.